Et le soleil, c'est pour nous faire la joue vermeille. Printemps, c'est la moindre des choses. Un hors-d'œuvre en pétales de rose. La neige, c'est pour faire joujou entre deux whisky. C'est pour nous. On n'est pas des chiens. On ne traverse pas entre les clous, comme les mêmes et leurs toutous. On est très anticonformiste, on aime le risque, on aime le twist. On ne fera rien comme maman jusqu'à l'âge de 25 ans. On n'est pas des moutons. Femme des amis, c'est sacrément bon à toucher. On la rend le surlendemain, on la remet dans le droit chemin. On lui fait un brin de morale, faut avoir un peu d'idéal. On n'est pas des boucs. Tu me donnes la moitié de ton manteau, je t'étrangle avec aussitôt. Te prendre l'autre moitié, c'est ce qu'un savant réputé nommait la survie des plus aptes. C'est le plus malin qui s'adapte. On n'est pas des pigeons. On a la mèche ensorcelante, on a la lippe désarmante, on insulte des malabars, bien à l'abri dans nos jaguars. On est la France de demain. Vous avez deviné. Enfin, on n'est pas des chiens. On n'est pas des moutons. On n'est pas des boucs. On n'est pas des pigeons. On est des hommes.
Il n'y en a pas sur 100, et pourtant ils existent, la plupart espagnols. Allez savoir pourquoi, faut croire qu'en Espagne, on ne les comprend pas, des anarchistes. Ils ont tout ramassé, des beignes et des pavés. Ils ont gueulé si fort qu'ils peuvent gueuler encore. Ils ont le cœur devant et leurs rêves au mi-temps. Et puis l'âme toute rongée par des foutues idées. Et elle a peint sur sang et pourtant ils existent. La plupart fils de rien. Ou bien fils de si peu, on ne les voit jamais que lorsqu'on a peur d'eux, les anarchistes. Ils sont morts 110 fois, pour que dalle et pourquoi? Avec l'amour au poing sur la table ou sur rien, avec l'air entêté qui fait le sang verser. Ils ont frappé si fort qu'ils peuvent frapper encore. Et elle n'a pas sur sang, et pourtant ils existent. Et s'il faut commencer par les coups de pied au cul, faudrait pas oublier que ça descend dans la rue, les anarchistes. Ils ont un drapeau noir en berne sur l'espoir et la mélancolie pour traîner dans la vie, des couteaux pour trancher le pain de l'amitié et des armes rouillées pour ne pas oublier. Il n'y en a pas sur 100, et pourtant ils existent, et qu'ils se tiennent bien, bras dessus, bras dessous, joyeux, et c'est pour ça qu'ils sont toujours debout, les anarchistes.
Je ne veux plus dans ma tour d'ivoire faire des grimaces à mon miroir. Je ne veux plus au fond de mon île me regarder pousser le nombril. La solitude c'est comme la mort. Quand je suis plusieurs je l'appelle. Et quand je suis seul je rêve de port, de métro, de tour de Babel. De grandes tours cacophoniques avec de la foule, de la sueur, des étrangers, des claques, des clics. Et autour de moi la rumeur. Et autour de moi la rumeur. Je suis une presqu'île, j'ai un bras vers la mer et le cœur dans la ville et les pieds vers la terre. Plus de Jersey, de Sainte-Hélène, plus de manoirs sans Frankenstein, plus d'idées noires sans personne, plus de nuits blanches sans téléphone. La solitude c'est comme la rage. Quand je suis plusieurs je me fais la paire. Mais quand je suis seul je rêve de plage. Corps contre corps, chair contre chair. De grandes plages polluées même, avec de la foule, de la sueur, des gosses qui braillent, des gens qui s'aiment. Et autour de moi la rumeur. Et autour de moi la rumeur. Je suis une presqu'île, j'ai un bras vert la mer et le cœur dans la ville et les pieds vers la terre. Ce soir dans le silence bête je voudrais qu'une voiture s'arrête. Assassin, vagabond, qu'importe, mais que quelqu'un cogne à ma porte. La solitude c'est comme nous deux. Quand on est là il n'y a personne. Quand on est loin on rêve d'être deux, à écouter le temps qui sonne. Le temps qui passera mieux quand même, avec nos rires, avec nos pleurs, avec ton front sur mon front blême, et autour de nous la rumeur. Et autour de nous la rumeur. Je suis une presqu'île, j'ai un bras vers la mer, mais le cœur dans la ville, et les pieds. Les pieds vers la terre et les pieds vers la terre.
Alors, ça va décevoir. Hein.
Nous sommes désolés, c'est la page de la page. Vous pouvez appeler. Vous pouvez aller aux toilettes si vous voulez voir la page de Viva.
Et pour la majorité des gens, la CFDT, c'est les retraites, mais pour nous, ça fait mal aussi.
On va la battre un peu, ça ira. 1, 2, 1, 2, 3.
Avant, la vie était si triste, une vraie pénurie communiste. Quand je cherchais le numéro d'un plombier d'un garage en tout, pas de choix, pas de liberté. J'étais obligée d'appeler le 12.
Oh oui, le 12. Le 12. Rien que le 12.
Moi, tout prix fort.
Et puis le soleil s'est levé. La concurrence, la liberté. Un numéro, la plombée d'un garage auto, merci.
Voilà que de jeunes cerveaux refont le lit de la charogne. Nous allons compter les pendus au couchant d'une autre après-guerre. Et vous saluerez des drapeaux en priant debout sans vergogne.
Amis
dessous la cendre, le feu va tout brûler. La nuit pourrait descendre
dessus
nos amitiés. La nouvelle chasse est ouverte, cachons nos rires basanés. Les mots s'effacent sous les poings et les chansons sous les discours. Si vos lèvres sont entrouvertes, un ordre viendra les souder. Des gamins lâcheront les chiens sur les aveugles et sur les sourds.
Je crie
pour me défendre,
à moi
les étrangers.
La vie
est massacres s'accumulent, votre mémoire s'atrophie, et la sinistre marée noire couvre à nouveau notre avenir. Vous cherchez dans le crépuscule l'espérance de la survie, les bruits de bottes de l'histoire n'éveillent pas vos souvenirs.
Amis,
dessous la cendre,
le feu
va tout brûler.
La nuit
pourrait descendre
dessus
nos amitiés.
Je crie
pour la défendre.
Envers et contre vous, je vous écris partout des mots déments, barbares que j'imprime au hasard. Le creux de votre cou est un endroit charmant. Je vous aime un peu, beaucoup, je vous aime éperdument. À la folie, je vous couvre de billets doux. Je vois la vie en prose quand mon regard se pose sur des vallons perdus, des plages inattendues. De mes petits papiers, vous êtes le plus cher. Je suis tout à l'envers, tout à vous je perds pied. Sans vous le dire, je vous fais des aveux sans voix. Vous vous prêtez au jeu. Envers et contre vous, je vous écris partout. Des mots de tous les jours sur vos joues de velours. Je grave en gravissant votre monde Vénus. Des cœurs et des serments d'Azibao Laïus. J'écris la météo là où tu mets tes bas. Voilà qu'à cet endroit précis je te tutoie comme un drôle de tatou. Je vous écris, je vous envahis et vous de mots choisis. Envers et contre vous, je vous écris partout. J'écris la météo là où tu mets tes bas. Voilà qu'à cet endroit précis je te tutoie.
en Italie, ça s'arrose, hein.
Allez, Polo, à ta santé.
Chérie, te souviens-tu du lac de Como, où nous avons passé 8 jours jolis, dans une petite auberge jaune de Como, au bord de l'eau près des galets polis.
Bonjour madame, y'a pas de quoi?
Commencer à ressentir tous les symptômes des nouveaux arrivants en Italie.
Oh, Madrid!
Et malgré mon absence de diplôme, je ne parlais que la langue du pays.
Polo, Opoli, Olé.
Panino, Vitello, Formaggio et les rodos dindrons. Gelati, frittati, spaghetti, légumi, salami
et canetti.
Ah, canetti, oui. Minestra, senata, gazosa et cioccolata. La signora j'étais devenu calé sur la dînette, mais je ne savais pas parler d'amour.
Bravo, Mimi!
Il aurait bien fallu que je répète avec une brune aux yeux de velours
de Chine.
Mais tu n'as pas voulu que je m'instruise.
Velours de Chine.
Et tu as fantassé ton assimile.
Parce que d'habitude on dit crêpe de Chine.
Puis un bon soir qu'on se faisait des bises,
de
tu
Chine.
M'as glissé d'un air subtil.
Du levant.
On est pas bête. Tivolio, ti amo, coro mio, un bacio, corbaccio. Tenorro, diletto, intimo, devoto, cosciolo. Sospiro, spero, aspetto, mi cita tanto. Vieni, 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 oh. Et tout ce que tu m'as fait dans le plus mal, dis-moi où tu l'avais appris.
Tu viens chez nous avec tes grands pieds, ta belle cravate et ton costard, les bras débordants de dossiers. Et puis tes airs de tout savoir. S'agit d'implanter sur nos monts, sur nos crêtes, toute une forêt de mâts, d'hélices, et ça au nom de l'écologie du progrès. Des éoliennes, ça s'appelle, dans la hauteur.
Sono le 22:30.
Alors,
tutto in fretta, a volte mi distraggo un po', confuso in mezzo al fumo. Mi trovo bene, mi trovo, non lo so, ma la suerte riesce a respirare, ma la suerte a dirmi cose strane, ma la suerte accende il diavolo. Tutto e faccio quello che mi pare. In un attimo libero, io faccio un giro senza farmi vedere, ma la suerte riesce a respirare, ma la suerte a farmi stare bene, ma la suerte accende il diavolo. Accendi il diavolo! Continuo, esagero e perturbato scrivo, poi cancello tutto. Riuscissi a respirare, ma la suerte a dirmi cose strane, ma la suerte accende il diavolo. Accende il diavolo. Accende il diavolo.
Radio Libertaire, salut! Salut les cassos, salut les déglingos, c'est le club vieillesse qui commence. Ouais, je sais, je suis de mauvaise humeur. Déjà j'étais de mauvaise humeur, mais là je suis encore plus de mauvaise humeur. Radio Libertaire, c'est le c'est, nous sommes en direct déjà. De nouveau, c'est The Post-Non Radio Show, ta gueule toi. Le Post-Non Radio Show qui commence. Je suis dans mon zoo personnel ici. On est en direct depuis mon zoo là. Ouais, c'est pas. Comment ça. Où est-ce que j'en étais? Donc nous sommes en direct. C'est le Post-Non Radio Show. C'est vendredi. Oh, tais-toi. C'est vendredi et bien évidemment, je suis là pour vous. Enchantés, les oreilles et le reste hein, de ma douce voix, c'est Henrik et je suis avec l'équipe habituelle là,
oui.
Qui me pose toujours des problèmes,
ben
pour
oui,
certains.
On espère, oui.
Ouais, bah pas trop quand même.
Bonsoir Henrik. Ouais,
ouais. Salut Serge. Salut Guy et salut Yves.
Salut, salut.
Bonjour.
Ouais, bonjour. Ouais. Ça va, les problèmes de caste, là, on s'en sort.
C'est ouais, toujours un peu fort pour moi, mais enfin...
Oh,
moi,
c'est pas grave. C'est bon. Ça va, on s'en sort pas, là, dans les réglages. Là, c'est pas le moment. C'est quasiment au minimum. Hein. Je peux pas te mettre moins fort encore, sinon... c'est carrément, excuse-moi, c'est une radio pour sourds muets qu'on fait, là.
Voilà.
Bon, tu vas... Et ouais, merci, Serge. Il y en a un qui abonde dans mon sens. Allez, salut. Bon, ok, je vais essayer d'être pas trop mauvaise humeur. Si je le suis. Je me suis déjà tapé cet après-midi le centre aéré qui est à côté de chez moi. Ah. Et donc là, ça suffit. Là, je n'en peux plus. J'aimerais juste que la foudre tombe sur cette école. Si c'est possible. À défaut des meutiers. Hein? Qu'il est brûlé. Un bon orage. Parce que c'est l'enfer. Donc, vendredi, je sais plus combien.
28
ouais. Merci.
28 juillet.
28 juillet 2023.
Bien.
Ça va, qui c'est qui fait de l'humour là? Qui fait de l'humour dans cette équipe de déglingos là?
Tout le monde.
Ok, le club vieillesse, ok, d'accord.
Oui, voilà, oui.
Voilà, on les a sortis de la nafta.
Avec notre canne.
Alors, ouais. Adi qui est de retour, il était à Saint-Imier la semaine dernière.
En Suisse.
On n'a quasiment rien compris à ton coup de fil.
Non, oui, bah non, c'est vrai.
Mais c'est pas grave.
C'était une pièce de théâtre.
Non, mais c'est pas grave, c'était très
non,
sympa.
Non, c'est dommage, on n'a pas l'extrait... On n'a pas l'extrait, effectivement, où ils sont intervenus à l'antenne. C'est dommage, on aurait pu passer.
T'aurais pu me le dire.
C'est enregistré.
T'aurais pu me le dire, je l'aurais cuté. Mais non, il y en a un bout dans le...
Non, mais moi, je savais qu'on serait boycotté, alors...
Non, pas du tout.
Alors, j'avais enregistré en douce et voilà, c'est bien passé.
Alors, dans le montage, dans le montage qu'il y aura ensuite, dans les montages de nuit qu'il y a ensuite, après l'émission, il y aura... Il y a un petit bout du coup de fil que j'ai essayé de rendre un peu drôle. Ben voilà. Donc oui, Guy qui est de retour de Saint-Imier, c'était paraît-il super. Ouais, tant mieux. T'as de la chance mon gars, nous on passe des vacances pourries. Enfin moi je passe un arrêt maladie pourri, je le dis tout de suite, pour la sécurité sociale qui m'écoute certainement là. Non, je plaisante. Passons à autre chose. Non, mais sérieux, je vais péter un câble là. Je suis censé être en convalescence. Donc j'ai des travaux dans l'immeuble. Attends, les mecs ne respectent même pas les horaires.
Ah oui.
Donc dès 8h, 9h du matin, là. C'est la perceuse, les ponceuses, je te défonce les murs, je me demande comment mon appartement n'est pas tombé sur celui d'en bas.
Ça doit être hyper désagréable, je comprends.
Sans compter la musique.
Ah oui, ils ont de la musique en plus ?
Bah, ils mettent de la musique en plus.
Ah oui. Bon, alors déjà, il y a ça, plus...
Dis donc, c'est l'Ukraine, hein ?
Le chant des oiseaux, mais c'est insupportable.
Non. Le chant des oiseaux, ça, il y a un jardin, mais le pauvre jardin, il est massacré par ce bruit. Alors voilà, tu te dis, tu vis dans une... Voilà, bon, bref, c'est la vie de merde de A à Z. Plus l'école, enfin, qui fait centre aéré l'été, car non content de nous péter les couilles à longueur d'année à la récréation, parce que je peux dire que vivre à côté d'une école maternelle, c'est l'Ukraine puissance 1000. Hein. Mm-hmm. La guerre à côté, c'est rien. Et j'en ai rien à foutre si les gens me trouvent obscène, là. Parce que franchement, là, il faut le supporter. Mm-hmm. Faut le vivre. Hein. Sérieusement, c'est invivable. Et en plus, là, je suis quand même en convalescence. Donc, je dors extrêmement mal. J'ai les nerfs. Mes nerfs sont ruinés. Ma vie est ruinée. Voilà. Voilà, je le dis à l'antenne.
Mmh, oui, oui.
Donc voilà. Donc.
Est-ce que tu penses être endommagé ?
Oui, je suis endommagé, gravement. Oui. Et là, je pense que je vais faire un rituel de sorcellerie. Vous m'excuserez les libertaires anarchistes. Hein, si, bon, je vais faire de la magie gris-gris. Et je vais demander à ce qu'il y ait un éclair qui tombe sur l'école.
Donc, tu vas demander aussi à être dédommagé.
Je sais pas ce que je vais faire, mais en tout cas...
Ah bah oui, oui, faut
Je vais intenter une action, ouais.
Oui.
Alors, il y a les boules qui est-ce.
Non, ça sert à rien, Mathieu, oui. Non, je... Bref, cette émission s'annonce, vous avez vu, en traduction formidable. Déjà, les auditeurs, le petit qui était là, se sont barrés en tourné le bouton. Alors, surtout, les vieux cons, les vieux schnocks qui nous appellent pour nous insulter, hein. Mmh. Vous tournez le bouton aussi.
Oui.
Si vous avez rien d'autre à foutre que d'écouter des radios que vous appréciez pas, bah franchement, c'est pire que tout, quoi. Vous avez vraiment une pauvre vie.
Bah oui, c'est pas malin de leur part. Hein.
Ben non, c'est franchement là. Je veux dire, t'aimes pas un truc, tu t'obstines à le fréquenter, que ça soit un journaux, je veux dire, des commentaires sur tes journaux, alors mais ne lis pas. Si c'est pas c'est pas ce que tu dis d'habitude, je veux dire. Enfin bref, si tu veux faire le troll, va le faire ailleurs.
Bah oui.
Donc cette émission, comme vous pouvez le constater, commence bien, démarre bien.
Mais
on va essayer de la rendre un peu attractive. Après un morceau de musique.
Ok.
Ok. D'accord. Allez. We'll be right back. En Radio Libertaire 89.4, c'est la radio de la Fédération anarchiste et il fait bien chaud là, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai chaud. Donc, cette émission reprend, c'est le Post Non Radio Show, et je m'appelle Henrik. Et nous sommes donc avec, et je suis, et vous êtes par la même occasion, si vous écoutez un peu attentivement, sinon c'est pas grave, Serge, Guy et Yves. Guy, tu peux, tu veux nous faire une petite... carte postale souvenir de Saint-Imier, mon grand.
Oui.
Bah oui. Alors.
Voilà, c'est un pays montagneux quand même.
Bah c'est la Suisse, non?
Ouais. Très difficile pour ceux qui ne sont pas habitants du coin. Voilà, parce qu'il y a quand même des choses assez assez typiques là-bas de l'endroit. Hein. Même dans la ville, des noms de rues qui n'y sont pas, des numéros de rues déjà en dehors pour perdre un petit peu les clients. Mais dans l'ensemble, eh bien, ça n'a reculé personne puisqu'il y avait...
ça n'a fait reculer personne.
Beaucoup de monde, bah oui. Voilà. D'ailleurs, je ne sais pas comment ils ont été invités tous, qu'ils se sont décidés à venir, qu'ils ont... je ne sais pas comment tout ça s'est fait. Sans doute avec plus d'informations, peut-être de battage, comme on dit, sur l'événement. Faut savoir que tous les ans là-bas en Suisse, il y a à proximité de Saint-Imier, donc il y a une exposition de livres, voilà, un salon du livre, on va dire, organisé. Hein. Et déjà, c'est quelque chose qui, tous les ans, qui rassemblait beaucoup de monde. Mais là, c'était quand même particulier parce que c'était vraiment spécifique à l'anarchie. Voilà. Et aux événements qui se sont passés il y a très très longtemps, mais ça reste toujours, j'ai vu dans la mémoire de ceux qui sont proches de tout ce qui s'est passé et de ce qu'on aimerait qu'ils se mettent en place. Voilà, c'est un genre de situation qu'on appelle l'anarchie, tout simplement. Voilà. Et avec étonnement, ça concerne beaucoup de jeunes maintenant. Voilà, beaucoup plus de jeunes, c'est sûr. De monde, je ne sais pas. Je sais qu'il y a 11 ans, on était quand même... on était bien 3000, hein, sûr. Mais là, ils annoncent beaucoup plus que ça. Ils avaient prévu 5000. Est-ce qu'on a atteint? Je ne sais pas. Puis en fait, on s'en fout un peu, mais on sait qu'il y a eu beaucoup de monde. Et les journaux locaux, eh bien, ont titré, voilà, la population de Saint-Imier est doublée. C'est-à-dire, ils sont d'habitude 4000. Et là, au total, on était tous environ, ils ont dit, 8000 ou 9000. Voilà. Donc, d'un seul coup, ça fait quand même vraiment énormément de monde de partout. Malgré qu'il y ait des structures spécifiques au regroupement, à tout ce qui est fête, tout ce qui est présentation de livres, tout ce qui est colloque, des films qui sont passés aussi, etc. Énormément de choses. On n'a pas pu loin de là. Hein. Encore moins quand on était participant à tenir un stand donc dans la patinoire de Saint-Imier. Et c'est grandiose, déjà la patinoire, tout était quasiment complet. Et donc, voilà, ça faisait déjà excessivement de monde. Et les organisations de colloques, de conférences, etc., films, c'était dans des lieux assez éloignés même dans Saint-Imier, parce que c'est grand, hein, Saint-Imier, c'est disons... une montagne d'un côté, une montagne de l'autre, et au milieu, la route voilà, qui dessert toute la vallée. Et ce qui se passait de l'est à l'ouest de Saint-Imier, ça faisait quelques kilomètres, hein, voilà, qui étaient parcourus en train, qui pouvaient être parcourus en train, effectivement. Ils pouvaient être parcourus à pied. Voilà, en principe, tous les transports en commun étaient gratuits. Voilà. La nourriture aussi, la nourriture était pas gratuite, parce qu'on peut donner ce qu'on veut, ça veut dire qu'il faut quand même qu'on donne un tout petit peu, mais voilà, celui qui n'était vraiment pas en possibilité de donner, bah, ne donnait pas, c'était pas un problème. Hein, c'était pas du tout un problème. Que dire encore sur la bonne... on était bien reçus, hein,
bonne ambiance.
Dans la ville, j'avais déjà remarqué il y a 11 ans, hein. On était bien reçus par les gens du coin, voilà, qui venaient, ils sont venus voir ce qu'il y avait comme livres présentés et tout. Et puis vraiment, il y a eu des grandes associations, hein, qui étaient là, des grands mouvements. Il y avait par exemple le CIRA de Lausanne, il y avait le CIRA de Marseille. Donc déjà,
c'est quoi un CIRA?
Un CIRA, c'est un centre international de recherche sur l'anarchisme. Voilà, donc il y avait le plus grand, je pense que c'est Lausanne, et il y avait maintenant Marseille, ça commence à être quelque chose de très très ample, hein. Malgré que je sais pas s'ils étaient là, j'ai pas eu le temps moi de voir le stand, mais il y avait aussi, il y en a un petit centre de recherche qui fait du bon travail en ce moment, c'est à Limoges, hein. Voilà. Et puis que dire encore, et ben des gens qui sont venus un peu de partout, parce que nous-mêmes sur Paris on a ramené, on peut dire son prénom parce que c'est pas son nom, je connais pas son nom d'ailleurs, Adriano, qui est un Brésilien, voilà, Sao Paulo, voilà, il est venu de Sao Paulo, il a ramené beaucoup de livres parce qu'il est repassé par le Portugal, hein, il est repassé par Lisboa c'est Lisbonne, hein. Et ensuite et bien il est rentré, je pense que maintenant il doit être en train de rentrer sur le Brésil, hein. Tout simplement. Donc il y a eu des gens qui sont venus un peu de partout. Il y a eu des gros problèmes de communication, ça c'est évident, mais c'est à chaque fois comme cela. Je pense que ça prend beaucoup plus d'ampleur. C'est des jeunes qui sont là et qui n'utilisent pas l'anglais forcément, mais qui utilisent beaucoup d'autres langues, comme on a vu l'espagnol. On a vu aussi le portugais, voilà, la langue portugaise aussi.
L'espéranto aussi.
L'espéranto, on en a vu beaucoup. Ouais, ça c'est une surprise aussi parce que c'est des gens qui ont des petits groupes, hein, qu'on a vu, encore un petit groupe qui marche, qui pourrait marcher mieux que ce qui ne fonctionne parce qu'ils sont assez loin les uns des autres, c'est à Dijon, hein, voilà, pour dire. Ils ne sont plus forcément dans une association, ils sont dans des groupes qui fonctionnent d'une autre manière, voilà. Mais nous on a pris contact parce qu'on n'est pas on a des associations nous dans lesquelles on travaille, mais on peut très bien s'en éloigner et puis et avoir est aussi encore en fonction intéressante. Hein. Oui. Ouais, je pense que c'est la vie maintenant de tous ces jeunes qui arrivent, c'est d'être autonomes. Voilà. Ils aiment bien être autonomes par rapport à ce qui s'est passé, par rapport au niveau historique, hein, parce qu'il y a eu pas mal de choses, justement. Et c'est bien. Nous, on est partie prenante aussi de tout ça.
Ce que je pourrais dire, c'est qu'effectivement... Tu pouvais pas t'attendre au nombre de personnes qui allaient venir. C'est toujours le cas dans une manifestation qu'on organise. Il y a forcément des surprises. Alors il peut y avoir des surprises où il peut y avoir beaucoup de monde, et il peut y avoir des surprises où il peut y avoir beaucoup moins de monde.
Ah oui. Mais là c'était il aurait pu y avoir beaucoup moins de monde. Pourquoi? Eh bien parce que nous ici à Radio Esperanto, on est tous affiliés à SAT. Hein, c'est une association. Qui ne parle pas de l'espéranto, qui utilise simplement la langue, hein, au niveau politique. Et c'est une association anationale, c'est-à-dire on ne se reconnaît pas être d'une nationalité quelconque. Et bien là, il est venu des personnes qui étaient intéressantes pour ça, qui veulent rester d'une grande autonomie et qui ne veulent pas être affiliés forcément tout de suite comme ils le sont dans leurs études. Parce que c'est des jeunes qui n'ont pas 30 ans, hein. C'est des très jeunes, hein. Alors, ces jeunes-là, ils veulent pas être inféodés à la langue anglaise. Alors, par exemple, le jeune brésilien là, qui est revenu avec avec des livres à laisser ici à Paris et puis à laisser aussi à Lisbonne. Lui, il parle. Il était intéressant pour nous parce que nous, on était trois et on a, tout en étant trois, on a représenté une grande variété de langues, hein, puisque Florence, elle parle le japonais, donc il n'y avait pas de problème. Elle parle l'allemand, peut-être maintenant mieux que moi, parce que moi, j'ai pas tout perdu, mais j'ai du mal à reprendre. Elle parle l'anglais, là, 100 fois mieux que moi. Allemand, donc japonais, espéranto un peu moins parce qu'elle n'a pas encore eu l'occasion de beaucoup pratiquer. Volito, il parle, lui, il parle italien, il parle, de par ses parents, il parle l'espagnol, donc il parle aussi le portugais un peu, il parle bien l'espéranto. Donc on était vraiment large pour accueillir toutes sortes de personnes de tel et tel pays sans problème. Ouais. Donc ça, c'était un côté très intéressant au niveau linguistique, hein, parce que il y a eu beaucoup de plaintes de personnes qui ont dit il y a des colloques, ça dure un temps fou parce qu'on attend les traductions et puis tout ça en plusieurs langues. Donc, mais j'avais déjà remarqué cela, moi, il y a 11 ans. Hein. Voilà, là, ça a beaucoup plus bougé parce qu'on sent que les jeunes, ils veulent plus être inféodé à une langue maîtresse qu'on utilise dans le travail, qui est obligatoire pour faire des rapports, qui est attention, hein, on va être surpris. Moi, je l'avais dit il y a très longtemps. Hein. J'avais dit attention, le problème des langues quand ça va se présenter. Nous, ça fait 100 ans que c'est dans l'association, hein, mais quand ça va vraiment se présenter, et c'est pas le problème des langues qu'il y a dans les grandes associations dans le monde. Hein. Moi, je parle du problème des langues dans notre petite association qui dit que derrière les langues, il ne faut pas de nationalité. Hein. Voilà, il faut bannir les nationalités. Donc, c'est très, très en avance de tout ce que les gens peuvent avoir dans leur tête au niveau des langues, quoi, au niveau des rencontres. Voilà. Et à Saint-Imier, ça a commencé à prendre, j'ai vu, hein, ça a commencé à prendre énormément d'ampleur.
Bref, une belle manifestation, en fait.
Comme dit Serge, ça peut d'un seul coup être comme ça, et puis 2-3 ans après, ça n'a pas encore pris ça va baisser peut-être, on ne sait pas.
Oui.
Mais il faudra attendre encore plus tard, mais c'est pas grave, ça va venir en dehors de nous, et puis on sera plus là, c'est pas grave non plus, hein. Voilà. Voilà, ouais, ça c'était quand même, fallait être là. Et puis surtout que, sur les stands, ceux qui étaient venus, étant italiens, que certains avaient la possibilité dans le groupe de présentation des langues des bouquins et puis tout parler aussi l'espéranto ou l'anglais et tout ça, tout ce qui était dans la langue de leur pays était présenté. Voilà. Donc on pouvait aussi acheter des livres en italien, en ceci, en cela, et voilà. Alors à côté de nous il y avait un stand norvégien, voilà, de Norvège, mais qui étaient venus et qui eux, et bien effectivement, la Norvège, ça n'existe plus. C'est comme la Finlande, je leur ai dit. Vous utilisez l'anglais. Ils m'ont dit, ah oui, on utilise l'anglais. Je dis, ben très bien. Je dis, mais le norvégien, ça existe encore? Ah ben oui, mais bon, oui. Le finlandais, ça existe encore? Oh oui, mais bon. Je dis, vous savez que vous êtes des langues minoritaires maintenant? Comme en France, il y a 5 ou 6 langues régionales. Et vous êtes pareil, quoi. Hein, vous êtes en train de... Vous allez crever, quoi, assez vite. Et puis, d'un seul coup, ils m'ont dit, ouais, t'as peut-être raison, parce que nous-mêmes, ils disent, on remarque que, voilà, on est en train de basculer. Et basculer, hein, allez-y. c'est grave, quoi, pour moi, voilà.
Tu veux dire qu'effectivement, comme la Norvège et la Finlande, on utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup l'anglais, et très peu les langues... Les langues locales, en fait, nationales.
Oui, faut pas, attention, hein. La Finlande, c'est 5 millions de personnes, c'est tout, hein.
Ah oui, oui.
Alors là, c'est gravos, plus que la Suède, hein, par exemple. Oui.
Moi, j'ai souvenir d'un séjour aux Pays-Bas, la moitié des gens parlaient anglais. Et ils parlaient pas le néerlandais, par exemple.
On a rencontré des Belges aussi, des Belges. Ah.
Des Belges.
Mais s'ils le veulent, ils le parlent. Les Néerlandais, ils parlent toujours 3-4 langues, y compris l'allemand qu'ils ne veulent jamais comprendre ou jamais parler à cause des problèmes historiques. Mais bon. Non ?
Oui. Oui, c'est très complexe, hein, le problème des langues, là, oui.
Ben, je crois qu'on en a terminé là.
Formidable, merci.
Voilà, c'était intéressant.
Oui, tout à fait, ça m'a permis de faire une sieste. Allez, pause musicale.
Pause musicale,
on vient tout de
allons-y.
Suite.
Même en Allemagne, c'est comme en anglais maintenant.
Liberteur de poste, non, radio, show. Ah oui, je sais, c'est nul. Ok, les libertaires de poste, non, radio, show, sur le 89.4 FM. Putain, on dirait, je me tords dans tous les sens là, sur mon fauteuil. Oui, donc je disais, anarchiste.info et... radio-libertaire.org, ça c'est pour internet. Vous êtes de nouveau à l'antenne, les amis. Yves, je suis sûr que tu as envie de parler.
Oui, ça peut se faire, bien sûr.
Oh là, quel blasé.
Non, mais...
C'est un ton très blasé, très...
C'est un ton blasé, bien, ça.
Mais bien sûr, je peux te balancer un truc, mon gars, là, tu vois.
Je peux en balancer plusieurs.
Oh, ben ça... Ça, si je te laisse faire, on est là.
On pourrait se mettre dans la peau d'un mec de 20 ans qui a été alléché par une formation ou une formation diplômante.
Ouais, de quoi tu parles?
J'ai commencé à parler, donc il faut écouter pour savoir la suite. Donc il a 20 ans et il a fait une formation diplômante.
Attends, mais ici on ne s'intéresse pas aux gens de 20 ans, on n'en a rien à foutre des jeunes. Ici c'est le club vieillesse.
Et en cours d'année, il s'aperçoit que l'établissement ferme, donc il y a un problème, disons. Ou alors, il n'arrive pas à récupérer son diplôme ou une attestation de réussite, soit que l'établissement est fermé, soit en cours d'année même. Donc, c'est tristounet pour lui, quoi. Et donc, du coup, il y en a beaucoup qui veulent s'assurer de la reconnaissance par l'État du diplôme qu'ils préparent. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de boîtes privées dans le supérieur maintenant. Et elles font des diplômes qui sont ou qui ne seront pas reconnus par l'État. Et donc, on a... Je ne sais pas si vous savez, mais nous avons une médiatrice de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur qui a écrit un rapport annuel qui s'intitule, alors là je n'ai pas compris pourquoi il s'appelle comme ça, mais « Apprendre à vivre ensemble », fermez les guillemets, et elle écrit « Un certain nombre d'établissements de l'enseignement supérieur jouent de la confusion qui existe entre les différentes appellations, titres, grades, diplômes d'État, diplômes reconnus ou visés par l'État, master, bachelor, etc. » Et donc, conséquence principale de cette confusion qui est assez savamment entretenue par les organismes privés lucratifs, de nombreux étudiants ont la mauvaise surprise de constater que le diplôme obtenu ne leur permet pas d'emprunter la voie choisie à l'issue d'un cursus parfois long et coûteux. Et l'article du Canard, que je suis en train de piller, qui est écrit par un monsieur dont les initiales sont CB, comme carte bleue, ça reste franco-français, par opposition à visa, disons. Et donc, ils se retrouvent, ils ont donné des chèques, ça a été encaissé, il n'y a pas de problème, mais ils ont le bec dans l'eau parce que leur diplôme ne leur permet pas de suivre la formation qu'ils auraient suivie ensuite. Et rien qu'en 2022, le nombre de saisines de cet organisme, donc émanant d'élèves et d'étudiants du secteur privé de l'éducation auprès de la médiatrice, a atteint 1392 réclamations, soit une hausse de 346% en 5 ans. Et parmi ces saisines, près de 500 concernent les établissements privés de l'enseignement supérieur. Voilà. Et donc, alors évidemment, la dame qui est responsable de... qui est médiatrice de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, qui s'appelle Madame Catherine Becchetti-Bizot, a dit que pour sécuriser le parcours des étudiants, elle recommandait aux établissements privés de proposer des outils permettant aux jeunes de vérifier leurs perspectives en termes de poursuite d'études et d'insertion professionnelle. On remercie beaucoup la dame. L'article du Canard conclut en disant, il est plus méchant que moi, disons, « Nul doute que ces boîtes d'Afrique vont se bousculer pour faire savoir que leurs diplômes sont en carton. Oh » Ça, c'était dans le Canard du 26 juillet 2023.
Il y a deux jours. Ouais. Voilà. Il y a deux jours.
J'avais parlé d'autres fois de ces boîtes privées qui se créent c'est éducatif. Même notre ancien ministre, très, très célèbre et très réputé et tellement excellent, qui s'appelait, je crois, Michel Blanquer, est passé dans ce genre de boîte. Je crois que c'est chez Veolia où il met en place une filière d'enseignement privé. Bon, j'espère que ce ne sera pas aussi catastrophique pour les gens qui la suivent. Je me demande d'ailleurs comment c'est possible ce genre de passage du ministre. Je ne comprends pas. Personnellement, je ne comprends pas. Mais je deviens vieux et il y a des choses que je ne comprends pas du tout. C'est l'âge.
Qu'est-ce que tu ne comprends pas ?
Je ne comprends pas qu'un ministre de l'Éducation nationale ait le droit de partir dans le privé pour monter une boîte privée, alors que justement, il est dans l'Éducation nationale. C'est quelque chose qui me dépasse un petit peu, surtout que ça se passe sans délai, qu'il n'y a pas de demande d'autorisation de déposer. Enfin, je trouve ça très curieux.
Tu veux dire qu'il faudrait qu'il reste dans le service public, c'est ça ?
Ou qui ne crée pas de boîte du tout.
Éducation nationale.
Éducation nationale.
Il a créé une boîte privée, Blanquer.
Il n'a pas créé. Je n'ai pas les documents sur moi, donc j'ai peur de dire des bêtises.
Bon, il a été gestionnaire, en tout cas.
Mais il s'occupe d'enseignement privé chez Veolia. Qui monte une école privée.
Tous ces gens sont plus. Ils font ce qu'ils veulent, tu sais bien. Ça fait un peu complotiste, c'est ce que je dis. L'élite fait ce qu'elle veut, mais bon. Les gouvernants font ce qu'ils veulent, mais en même temps, bon. Là, quand on voit tous les recasages. Donc, ils font ce qu'ils veulent, quoi. Je sais pas si c'est pourquoi c'est possible chez Veolia.
Ne parlons pas conflit d'intérêts, parce que sinon j'ai des sujets sur les conflits d'intérêts. Ah, j'en ai là.
Entre les conflits d'intérêts, le pantouflage, les recasages à des postes, tu dois relire deux fois ou trois fois l'intitulé du poste en te demandant si le poste existe vraiment, tellement ça paraît un abscon. Abstrait.
Ben, il y a un aller-retour incessant qui sont très à la mode entre le service public de gens donc qui ont passé par exemple l'ENA ou des grandes écoles qui débouchent sur l'administration. Et puis, au bout de 3-4 ans, ils s'en vont dans le privé et puis ils reviennent en ayant un carnet d'adresses.
Veolia, c'est plus du tout public, non ?
Non, c'est totalement privé.
Non, c'est une boîte privée.
On va. Ouais, il fait ce que font tous ses camarades. Hein. Il bouffe à tous les râteliers, il pantoufle. Et puis après, alors, là, c'est pareil, ça fait. On va me dire, ça fait populiste, c'est ce que tu dis, mais après, tous ces gens voudraient qu'on leur fasse confiance en tant que ministre. Que personnel politique. Vous avez plus confiance dans les politiques, vous avez plus confiance dans les hommes et femmes politiques, etc. Ben non. Quand tu vois que tout ça, t'as pas confiance, quoi. Et donc, etc., t'as plus envie de voter. T'es complètement dans la défiance. C'est même plus dans la méfiance, c'est dans la défiance.
Ben, j'ai un article, par exemple, qui s'appelle « Conflit d'intérêts odieux à Bruxelles, mais pas à Paris ». Cocorico.
Oui, encore un de ces trucs où tu t'étrangles t'étais là en train de t'étouffer parce que tu dis des trucs pareils, tu dis mais comment c'est possible avec en plus justement toujours des gouvernants, etc., qui passent leur temps à faire des leçons de morale et qui nous prennent pour des cons, quoi. Enfin bref, vas-y, pardon, excuse-moi, je te coupe, je fais mon papy populo là. Papi Populo.
C'est un article du 26 juillet qui fait remarquer que pour une grande part, la tête de la chercheuse américaine, c'est du figuré, hein, quand on parle de la tête, Fiona Scott Morton, elle avait été choisie pour devenir économiste en chef de la direction générale de la concurrence de la Commission européenne, avec effet au 1er septembre, et finalement, elle a renoncé devant la bronca que ça créait. C'est Thierry Breton ou c'est Macron?
Mais j'ai déjà bien. Comment ils ont eu l'idée.
Attends, m'interromps de la... pas tout le temps. Il dit, n'y a-t-il aucun grand chercheur européen ayant des compétences académiques qui permettraient de faire ce travail? Donc ça, celui qui s'est interrogé de cette façon, c'est Macron, le 18, qui lui a jeté la dernière pierre. Mais l'article du Canard fait remarquer que à Paris, le poste d'économiste en chef de l'autorité de la concurrence est occupé par le Malaisien Eshen Chong. Je ne connaissais pas. Après 3 années passées à Hong Kong, ce dernier a été nommé en 2022 sans susciter de débat. Le chef de l'État a également ciblé les liens de l'économiste américaine avec Microsoft, Apple, Amazon ou Pfizer qui l'auraient obligé à se mettre en retrait sur toute décision concernant ces entreprises.
Et l'Indonésien, il fait mieux encore.
Et la situation... une situation qui rend quand même assez inopérant ce pourquoi on l'embauche. Or, Macron s'était montré beaucoup moins sourcilleux quand, en 2022, il avait nommé Stanislas Guérini, dont l'épouse dirige la stratégie de Google Cloud France, au poste de ministre de la fonction publique, chargé notamment de la transformation numérique et d'administration, ou lorsqu'il avait fait de Jean-Noël Barrot, ex-prof au MIT de Boston, dont la sœur travaille pour Uber, son ministre délégué chargé de la transition numérique. L'un et l'autre sont contraints par décret de se déporter sur tous les dossiers relatifs aux deux géants américains. Voilà, mais ils étaient sans doute les seuls à avoir les compétences pour faire ce job. Ça, c'est un article donc, du Canard enchaîné signé JC, ça ne doit pas être Jésus-Christ, mais là, je ne peux pas faire le blague, je suis désolé, c'est JC pour du Canard Enchaîné le 26 juillet. Je ne peux pas faire de blague parce que sinon je vais avoir toute l'église catholique et l'épiscopat sur le dos, donc loin de moi de faire une blague sur le sujet.
Alors, tu n'en as pas encore une autre là de
ah bah si, j'ai du...
De malfaisance de la gouvernance, là, encore un truc comme ça, là...
Ah oh ben, j'en ai un peu parlé...
Pour finir de nous... pas de nous dégoûter, parce que dégoûté, on l'est déjà. Mais disons, pour... pour rajouter...
Il y a eu deux articles dans le Monde. Un premier, dont j'avais peut-être un peu parlé, c'était conflit d'intérêts, le cas Aurélien Rousseau à l'étude. Et puis le second, qui... et un peu plus vieux, qui date du 27 juillet, du Monde daté du 27 juillet, il y a une ONG anticorruption qui s'appelle Transparency International qui revient sur une analyse de la HATVP concernant le ministre de la Santé. Et bon, je ne vais pas vous infliger tout l'article, mais...
La HAVP, la Haute Autorité de la Vie Publique, c'est ça?
Oui. Ce qu'ils disent, c'est qu'il faudrait que l'exécutif se dote d'un déontologue capable de suivre et de répondre en interne aux questions concernant les conflits d'intérêts. Car les autres institutions politiques, le Sénat, l'Assemblée nationale, mais aussi les collectivités territoriales, en sont tous désormais dotés. Donc ils posent la question, qu'attend l'exécutif pour rattraper son retard? Bon, je vous passe le début de l'article. Quant aux petites casseroles, disons, M. Éric Dupond-Moretti a été maintenu lors de ce remaniement.
Ce remaniement, il est bidon.
Monsieur Dussopt va être jugé à l'automne pour favoritisme. Le second sera fixé le vendredi 28 juillet. En fait, la Cour de cassation a dit qu'il y avait matière à poursuite. Sur son renvoi devant la Cour de justice, donc ça c'est fait.
Quel propos, qui ça?
Parce que lorsqu'il est devenu ministre de la Justice, attention, il faut que je pèse mes mots, mais il est soupçonné d'avoir réglé un petit peu ses comptes avec des gens... Il y a pour la Cour de cassation suffisamment d'éléments pour qu'il y ait effectivement un jugement.
Et Dussopt, qu'est-ce qui lui arrive à celui-là?
Dussopt, c'est un truc assez léger. Je crois qu'il a accepté un cadeau, un truc comme ça.
Ah, ok.
Je ne me rappelle plus très bien. C'est dans la localité où il est élu. J'ai pas les trucs en tête. Il demande comment analysez-vous l'abandon de la jurisprudence selon laquelle un ministre mis en examen doit quitter le gouvernement. Et cette ONG anticorruption répond: on n'est pas surpris. On est déçu de ce choix qui alimente la défiance vis-à-vis du personnel politique et confirme le peu de cas que fait l'exécutif concernant les questions d'éthique et d'exemplarité. Il semblerait que l'exécutif maintienne ses ministres par défi. On se souvient d'ailleurs du « qu'ils viennent me chercher » prononcé par les chefs d'État concernant l'affaire Benalla, ou par solidarité partisane. Si Marlène Schiappa avait été mise en examen dans l'affaire du fonds Marianne, peut-être aurait-elle eu davantage de chances de rester au gouvernement. Propos recueillis par Laura Mottet. Et celui qui écrit, donc celui qui s'exprimait, c'est M. David Dupré de l'ONG Anticorruption Transparency International. Ça recoupe un peu ce que tu disais sur le peu de confiance qu'on est amené à avoir.
Alors, comment tu vas avoir confiance dans un exécutif?
Donc, j'ai un peu monopolisé la parole parce que je crois que ça correspondait bien à ce que tu disais et c'est des faits concrets récents.
Bah oui, il n'y a que ça, quoi. Je veux dire, le paysage politique ne change pas puisque c'est absolument pas quelque chose qu'ils ont envie de remettre en question, malgré qu'il y ait des lois, des décrets, des annonces, on va faire le ménage, etc., etc. Quelquefois, il y a des têtes qui tombent, il y a un pseudo-ménage qui est fait, d'autres têtes sont contraintes de tomber sous la pression médiatique et
Non, là, pour l'instant, on n'a pas d'exemple de tête qui tombe sous pression médiatique, hein, au contraire.
Non, mais c'est parce que ça discute beaucoup dans les journaux, etc. Que quelquefois, il y a quand même des choses qui se font. Et puis, il y en a quand même qui tombent aussi sous le coup de la loi, c'est trop évident, etc. Mais la défiance, elle est là, c'est... cette histoire de défiance, elle est quand même.
C'est pour ça
elle
que.
Elle n'est pas très. C'est pas très nouveau.
C'est pour ça que.
C'est pour ça qu'il y a des 50%, 60, 70% de taux d'abstention aux élections.
C'est pour ça qu'il faut absolument maintenir cette idée qu'on a le droit à une information véridique, non manipulée. Parce que sinon, l'opinion n'est qu'une cruelle mystification. Et là, je viens de citer un passage d'un livre de Hannah Arendt. Qui date de 1971, mais je crois que ce qu'elle dit est tout à fait d'actualité.
Je cherchais, c'est le mot que je cherchais avec pression médiatique, pression de l'opinion. Quelquefois, tu vois bien qu'il y a des choses, des têtes qui tombent ou des gens qui sont remerciés parce que c'est trop voyant, c'est trop ça fait trop foutage de gueule, donc là l'exécutif s'est dit bon quand même on peut pas dire on vous emmerde, on le maintient en poste. Il y a quand même, voilà, quand ça devient trop grossier et obscène, bon, il y a quand même des choses qui se font, quoi.
Ah ben, je sais pas de quoi tu parles, parce que moi j'ai pas d'exemple récent.
Si, si j'en parle, c'est que je dois avoir un truc en tête, mais là c'est vrai que j'ai pas d'exemple là. Mais je pense qu'il doit y en avoir. C'est pas forcément. C'est vrai que dernièrement, ça suit pas. Enfin, c'est pas ça, va pas trop dans mon sens, ça c'est sûr. On pensait que la mère, la Marlène Schiappa, dont le père a été reçu dans des émissions sur Radio Libertaire, hein. Il est plutôt du bord opposé. Enfin bref, moi j'aurais une. Ça serait ma fille, j'aurais honte. Mais on s'attendait à ce que, par exemple, Marlène Schiappa ait quelques problèmes. Ben non. Bah non, pas trop, pas vraiment en fait.
C'est bizarre, effectivement.
Donc voilà, ouais, c'est. Donc voilà, comment. C'est
ce que j'ai bien aimé dans l'article sur les écoles privées, là. C'est que tout est sur un ton très gentil, proposer des outils permettant aux jeunes de vérifier leurs perspectives. C'est une sorte de. Il n'y a pas de clash, il n'y a pas d'injonction. Après tout, elle est médiatrice, elle n'est pas là pour faire les lois non plus. Donc. Et puis le titre, donc, c'est « Apprendre à vivre ensemble ». Ça, ça m'a frappé et fait rire.
Mais on se demande ce que ça vient faire là, quoi.
Je ne sais pas ce que ça veut dire. D'ailleurs, le Canard Enchaîné a écrit un sic entre parenthèses après, parce que eux non plus, apparemment, n'ont pas très bien compris. Enfin bon, bref. Le titre de l'article, c'était, ouais, j'ai pas cité parce que je veux pas provoquer au départ la fuite des cerveaux qui nous écoutent. Les écoles privées, cancre de la transparence, c'était.
Oui, il est bon. Les bons jeux de mots du Canard. Allez, pause musicale avant de continuer cette soirée enchanteresse.
Thank you.
The Post non Radio Show, vous êtes à l'écoute de Radio Libertaire en ce vendredi soir. Ah ouais.
À 22h23.
Ah, dis donc, oui.
Non, 22.
Ah, oui, si tu veux.
Oui, mais 22 secondes derrière.
Alors, un petit mot quand même sur le programme musical avant que je n'aille tuer quelques... Non, merde, le centre aéré est fermé, bordel. J'étais prêt à... J'imaginais la foudre s'abattre. Merde, j'ai pas encore fait mon... Bref. Quelques mots sur la programmation musicale ce soir. Ce sont des 45 tours du label Batov Records. Alors, le label Batov Records est un label londonien qui a été créé par DJ Kobayashi et Bob Martin vers 2013. Alors c'est plutôt centré autour de des musiques de la Méditerranée et du Moyen-Orient, et ils ont fini peu à peu par s'élargir quand même un peu au reste du monde. Mais par exemple, on s'est écouté un groupe italien, Tamuna, au début, puis Sababa 5, Sababa 5, qui est un groupe de Tel Aviv, à l'instant Romano. On s'est écouté aussi les Dynamites, Pop Hood. C'est des sons. Alors, il y a des séries, par exemple, la série Middle Eastern Groove, les grooves, les rythmes moyen-orientaux. Ça mêle psychédélisme, funk, jazz, soul. C'est des séries de 45 tours, souvent en édition limitée. Et DJ Kobayashi et Bob Martin, alors je ne sais pas lequel des deux, a une émission sur une radio internet qui s'appelle Soho Radio. Soho, comme les quartiers de Londres, Radio. Voilà, alors on s'est écouté. Donc c'est 45 tours de ce label de Batov Records, plus un 45 tours de Montel Palmer. Je trouve que ça, il allait bien. Montel Palmer, c'est plutôt une sorte de easy listening tropicaliste, assez chic et mystérieux. Je trouvais que ça se mariait bien. C'est ce qu'on va écouter juste après. On s'est écouté le groupe italien Tamuna. Alors les titres sont tous sont sortis, parus entre 2018 et 2023, donc 2019, 2020, etc. Donc Tamuna, Sababa 5, avec des titres un peu plus explicites, Funk One, Funk Two. Alors c'est des musiques très très bariolées, très dansantes, très très joyeuses, voilà comme ça. Les Dynamites dans un 45 tours dans un 45 tours, comment on appelle ce 45 tours avec deux groupes un par face. Bon bref, ils partagent l'autre face avec Radio Trip, et puis un autre 45 tours de Sababa 5 featuring une chanteuse japonaise qui s'appelle Yurika Anashima. Et enfin, à l'instant, un musicien qui s'appelle lui Romano. Alors attendez, je prends le 45 tours, voir si j'ai plus d'informations sur Romano. Non, il y a juste marqué Middle Eastern Grooves Synth pour synthétiseur. Voilà,
Mais c'est vrai qu'on entendait beaucoup de synthétiseurs, par contre. Beaucoup de synthétiseurs dans les 45 tours que tu as diffusés.
Oui, c'est assez axé sur quand même l'électronique.
Ils disent que c'est moyen-orientaux, mais...
Moyen-oriental. Il n'y a pas que Sababa, c'est des musiciens avec des instruments. Le groupe Sababa 5, par exemple. Mais... Voilà, ça c'est pour la programmation musicale de ce soir. Ben voilà, pas tout de suite à Re-Yves, on va dire un mot sur l'actualité des morts. Mais c'est juste après Montel Palmer.
Thank you.
Libertaire, 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 trois fois libertaire. Alan Postman Radio Show. Vous êtes à l'antenne, les amis.
Ouais.
Alors, qui est mort ? Qui est mort ces derniers temps ? Bah, les gens meurent comme... les vedettes, je veux dire, pardon, meurent comme les gens, hein. Puisque, évidemment, non, ce ne sont pas des dieux et des déesses de l'Olympe, juste de l'Olympe, pas capitalisme, vers ça, non. Il n'y a pas de, d'une quelconque Olympe élitiste où il serait porté par le public, le pouvoir, ou qui vous voudrez. Mais des êtres faits de chair et de sang, tout comme nous. Et qui est mort dernièrement, bah, la pauvre Sinéad O'Connor, hein.
Ah oui.
Qui avait plus toute sa tête, hein, parce que bon, quand même, elle était bien éclatée, la mère Sinéad O'Connor. Alors, je ne passerai pas de titre de Sinéad O'Connor, parce que Sinéad O'Connor, c'est bon, pas vraiment à tasse de thé. Mais voilà.
C'est pas Mylène Farmer ?
Non.
Non,
non, Mylène, mais, non, mais Mylène n'est pas morte.
Ah mince.
Mais dis pas ça, attends. Il a encore sa place là, Serge.
Bravo Serge.
Voilà. Tu tiens le coup. Tu tiens le coup. 24 septembre 2024.
Il tient le choc.
Non,
hein.
Non, mais attends, t'as failli lui faire peur.
Mordicus, t'as failli lui faire peur, mais j'ai regardé, il bronche pas. Hein. Tu sais qu'il a l'habitude.
Non, bah non, mais il sait bien qu'elle n'est pas morte. Non. C'était la planète entière le saurait.
Bah oui, oui.
Donc, ok, Sinéad O'Connor est décédé. Bon, bah, paix à son âme. Hein. Donc, pas de morceau pour se rappeler de Sinéad.
Elle avait une belle voix, quand même.
Oui, oui, oui. Bon, elle était, voilà, très démonstrative. Elle était un peu éclatée. Un peu éclatée dans sa tête. Mais bon, voilà. C'était une personnalité assez, assez forte. Qui est mort encore ? Bah, chez nous, il y a Eugène Birkin.
Oui.
Voilà, bon...